Isabelle Fontaine, bienvenue.
Hey, bonjour. Hey, 500 bénévoles quand même, hein, dans une opération spontanée à chaque année. Là, c'est pas comme si tu avais 500 employés à qui jour après jour, tu fais refaire les mêmes activités. Là, c'est du monde qui arrive, pouf, puis là, t'en as souvent qui c'est leur première expérience, sont pas formés, c'est incroyable.
Je sais que tu travailles d'abord dans le domaine politique puis des relations publiques, etc., mais as-tu déjà eu l'occasion, parce que nous, les médias, évidemment, on t'a invité de temps en temps, là, mais de voir comment ça se passe sur place?
Oui, absolument. Dans une autre vie, j'ai... Oui. À Montréal, je travaillais pour une députée à une certaine époque, puis ils ont participé à ça, là, comme bénévole, justement. Donc,
c'est
on allait là
folie,
une journée
hein?
complètement fou. Mais le bonheur que ça crée aussi c'est chez les gens, c'est un support vraiment incroyable en cette période de l'année où là, quand tu as de la misère arrivée, tu ressens ça d'une façon encore plus marquée, même si on le dit tout le temps, la pauvreté, c'est tout au long de l'année, là, mais
mm-hmm.
Ouais, une grande opération.
On parle du centre-ville de Sherbrooke ce matin. Il est sorti dans la tribune de Jean-François Bédard qui déchante. C'est le propriétaire de la boutique Glorious.
Ouais, ben,
c'est pas la première fois qu'il en parle. Il avait déjà parlé sur nos ondes.
Exactement.
Il avait l'intention de déménager ça. Mais l'affaire, c'est qu'il revient à la charge un petit peu ce matin. Lui, bon, c'est quand même le fondateur, l'ancien président de l'Association des gens d'affaires du centre-ville. Donc, il y a une voix qui porte quand même pas mal. Et il pense que la ville va tuer le centre-ville.
Exactement. Puis tu sais, c'est un bon prétexte. Effectivement, il l'avait dit en onde ici d'abord il y a quelques semaines, mais c'est un bon prétexte pour reparler du centre-ville. Et moi, il y a trois choses que j'ai envie de vous dire sur le développement commercial d'une artère comme Wellington. T'sais. D'abord, on l'a dit hier sur l'aéroport, le signal que les gouvernements envoient, puis ici le gouvernement municipal, sont très importants dans le développement économique. C'est pas toujours des fonds, c'est juste un signal. Là, ici, il y a beaucoup d'incertitudes autour du projet de Well Inc., Well Sud, t'sais, alors que avec l'administration précédente, on allait de l'avant avec quelque chose de... qu'on pouvait voir émerger avec ses forces et ses faiblesses, avec ses qualités et ses défauts, mais quand même, c'était plus prévisible. Puis la prévisibilité pour un commerce ou pour une entreprise, c'est très important. La deuxième chose, c'est effectivement le pont des Grandes Fourches. À terme, ça va être probablement très porteur pour le centre-ville, mais d'ici là, ça créera des désagréments qui auront un impact sur le commerce. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Tu sais, à Montréal, la mairesse Valérie Plante a dû... faire des plans pour aider les commerçants pendant la réfection, notamment de Sainte-Catherine. Il faudrait voir qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ici aussi. La deuxième chose qui est importante, je pense, c'est la clé de voûte d'un développement commercial dans un centre-ville, c'est la densité. Donc, ça prend densité de résidents, densité d'emplois de qualité, des institutions, du tourisme, des choses qui génèrent un achalandage. S'il n'y a pas de densité là, il n'y a pas de densité commerciale.
Ça prend une effervescence. Et comment tu la crées en ayant du monde dedans?
Ça prend du monde qui vienne. Puis tu sais, au cours des dernières années à Sherbrooke, qu'est-ce qu'on a valorisé? On a valorisé le développement de pôles qui sont vraiment loin du centre-ville.
Très étalé.
On parle à Rock Forest, le nouveau centre commercial. Là, il y a Fleurimont qui se développe entre la 610 et la 12e. Le plateau Saint-Joseph où on a installé le centre de foire. L'achalandage et la densité, on l'a créé bien loin du centre-ville.
Bon, oui. Tous les développements résidentiels, là, présentement, regardez ce qui se fait à Rock Forest. On n'est pas tellement près des pôles commerciaux. Tu parlais de l'Est, le Carré-Belvédère, c'est la même chose. Souvent près des autoroutes, mais souvent très, très loin du centre-ville.
Mais exactement. Donc là, effectivement, ça ne génère pas d'achalandage dans notre centre-ville. Puis en plus, on ne parle pas de la nécessité d'avoir sa voiture pour aller là. Mais bref, la seule chose qui crée un achalandage réel au centre-ville, c'est peut-être les spectacles l'été, puis effectivement...
L'hiver
ils ont
au Granada, mettons.
Puis le Granada.
Une chance que de bons restos.
Une chance.
Que nos chefs sont excellents, parce que sinon, l'achalandage, wow, ce serait
mais
pas
mais en
facile.
Même temps, les restos, tu vas y aller en début de soirée, puis tu vas t'étirer.
Quand
t'arrives le soir, tu vas te promener sur la Well, tu vas pas aller dans les boutiques qui sont fermées, tu sais. Fait que ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui est importante, c'est l'engagement de Steve Lussier de la réforme des organismes paramunicipaux,
oui.
Qui est très, très importante. Il va falloir qu'il y ait de l'avant avec ça. Puis je pense que dans la réflexion des élus puis dans la vision du maire, il doit avoir un attachement particulier à l'amour qu'on donne à notre centre-ville. Là, on a une société de développement commercial qui est Commerce Sherbrooke. Mais Commerce Sherbrooke, c'est pas pour le centre-ville, c'est pour l'ensemble des commerçants de Sherbrooke. Est-ce qu'on peut avoir une organisation d'un peu plus petite taille avec un peu plus de flexibilité, d'agilité pour agir vraiment sur le développement d'un pôle de centre-ville? Oui, commercial, mais peut-être aussi tous les autres aspects de densité que je mentionnais tantôt. Là. Il y a beaucoup de travail à faire.
Et pour le maire, c'est le « ça passe ou ça casse ». T'sais, malgré tous les autres projets, ce sera le central.
Ben, absolument. Il a mis fin à Welling, que là, on attend d'ouvrir les enveloppes, mais c'est aussi engagé sur les paramunicipales. Mais je pense que il a une légitimité. Il a été élu il y a un an avec un très fort appui. Il a tous les outils en main au conseil municipal aussi. Il n'y a pas une opposition super structurée nécessairement. Je pense que tout le monde au conseil municipal serait d'accord avec une vision comme ça.
Ben, et même l'opposition, tu sais, si on parle par exemple de Mme Baudin, Vincent Boutin, je veux dire, les gens sont favorables à ce que ça marche au centre-ville.
Ah oui, absolument, absolument. Vincent Boutin est un fort supporteur de, ben oui, de Welling aussi.
Ben oui.
Fait que je pense que le maire a en main tous les outils puis le terrain parfait pour avoir du succès ici, là. Puis je lui souhaite sincèrement.
Article intéressant dans la Presse Plus ce matin.
Ben
on
oui.
l'a entendu souvent, François Legault répète que ce dont le Québec a besoin, ce sont des jobs payants. 25, 30, 40 piastres de l'heure.
Je trouvais ça super intéressant parce que Justin Trudeau finit sa session parlementaire en disant le taux de chômage n'a jamais été aussi bas, la création d'emplois records au Canada. Et tu sais, ça, c'est un schéma dans lequel on est depuis tellement longtemps, la création d'emplois, tout ça. Et là, tu as l'Institut du Québec qui fait vraiment un travail remarquable sur l'économie, qui sort un rapport et qui a pris les engagements de M. Legault et qui a comparé, parce que François Legault dit « Créer des emplois, ce n'est plus un objectif qu'on devrait avoir. Évidemment, on est presque au plein emploi. Il faut améliorer les salaires, notamment, et les conditions des emplois qu'on a offert, de meilleurs emplois pour rattraper l'Ontario. » Et là, l'Institut du Québec met en lumière où sont vraiment les endroits où on peut faire des gains concrets. Et là-dessus, je vous dirais juste que ce qui est intéressant, d'une part, l'Ontario a une avance marquée, notamment dans les emplois très, très bien rémunérés, qui sont dus au secteur financier,
les
au secteur
riches,
du
là.
Conseil, les grands riches qui sont évidemment à Toronto et qu'on n'a pas nécessairement au Québec. Mais ils voient là une opportunité. T'sais, on a parlé de SNC-Lavalin, puis François Legault a sorti fortement pour dire qu'il fallait agir pour garder SNC-Lavalin au Québec.
Tu n'aurais pas une gêne, toi, sur SNC-Lavalin?
Aucunement. Moi, je pense que SNC-Lavalin, c'est un grand fleuron. C'est des dizaines de milliers d'emplois partout dans
le monde. Même s'il y a une tonne de leurs dirigeants, dont leur ex-PDG, qui s'en va encore en cours en février, puis que c'est de la corruption partout.
C'est le partout qui est important, qui est justement faux.
Je pense que c'est plus le cas.
C'est plus le cas.
Mais écoute, il y a eu tellement d'histoires.
Il y a eu beaucoup d'histoires, mais en même temps, c'est un grand fleuron de notre économie. Des dizaines de milliers d'emplois partout dans le monde, une expertise québécoise qui rayonne. Oui, on a trouvé les dirigeants qui ont mal agi. On les a poursuivis en justice. Il faut que ça se fasse.
Okay.
Mais en même temps, il faut pas perdre ce fleuron, cette expertise, ce rayonnement international du Québec qui est SNC-Lavalin.
Est-ce qu'on peut avoir plus de conditions qu'avec Bombardier, mettons?
Oui, puis il n'est peut-être pas question d'investir nécessairement dedans. Là, ce qu'on a fait, c'est juste acheter des parts pour éviter de faire en sorte qu'une compagnie étrangère vienne prendre le contrôle de l'entreprise puis que le contrôle reste au Québec. C'est tout ce que la Caisse a fait. Puis la Caisse va en tirer de très grands bénéfices.
Profit,
parce
c'est une bonne entreprise.
C'est une excellente entreprise, puis elle va faire de l'argent avec les actions ou les parts qu'elle a prises dans l'entreprise. Moi, je pense que c'est une excellente décision. Puis je pense que quand François Legault dit « il faut protéger les sièges sociaux », et qui réfléchit à comment Investissement Québec aussi peut investir là-dedans, c'est une maudite bonne affaire.
Ce qui est intéressant sur l'écart de salaire moyen entre le Québec et l'Ontario.
On a fait un grand détour, là.
Non, mais c'est correct, mais c'est parfait. Mais ce qui est intéressant entre l'écart de salaire, c'est qu'il a fondu beaucoup. Ça, c'est une bien bonne nouvelle. Maintenant, 3,4 en défaveur, évidemment, du Québec. Mais le salaire moyen, lorsqu'on fait des statistiques, 24,94 de l'heure au Québec,
ouais,
contre 26,43 en Ontario. Mais là où ça fait mal encore, c'est que nos semaines de travail sont considérées comme plus petites.
Bien, là où ça fait mal encore, c'est une. Tu sais, le temps de travail, c'est une question de choix.
Mais est-il réel ou fictif?
Ça. Puis là, d'autre part, si on choisit, nous, de travailler moins, mais qu'on en tire un plus grand bonheur, que
ça,
ce temps-là,
ah,
on le passe
ça,
avec nos enfants, il y a les aidants naturels qu'on soutient, donc qui sont moins dans les institutions publiques.
Là
il y a probablement
difficile.
Des gains plus difficiles à mesurer, mais ça, c'est un choix sur lequel le gouvernement peut difficilement agir.
Et là où c'est peu quantifiable aussi, c'est combien de gens travaillent à 35 heures semaine et en font 50, 60, et combien sont payés 35, mais en font 30, tu sais.
Oui, exactement.
Des fois, c'est un peu théorique, un salaire et un nombre d'heures, là, dans certains domaines. Là.
Absolument, absolument. Hein? Notamment dans le mien.
Oui. Merci, Isabelle. On va se reparler la semaine prochaine.
Merci, à lundi. Merci.